êtes toujours à l'écoute de Radio Orient et avec votre émission Sawa, aujourd'hui une émission spéciale sur la journée internationale des réfugiés. Avec nous pour en parler justement une personne très connue sur le territoire français, Khaled Rumou, essayiste, romancier, poète en France depuis 1969, 50 ans déjà, spécialiste engagé dans le dialogue des cultures et des religions. Bonjour Khaled Rumou.
Bonjour Asya.
Voici là. Comment allez-vous? Ça m'arrive, hein, vous savez, en direct, on m'appelle Souhila, voici là, on me donne plein de prénoms. Mais voilà, mon prénom c'est voici là. Je le maintiens. Comment allez-vous Khaled Rumou?
Ça va, merci beaucoup.
Alors, un long chemin, cher Khaled, une traversée dans un pays qui vous a adopté et que vous avez adopté aussi, au goût, ce chemin, ou cette traversée, au goût de l'exil, exil intellectuel, culturel et cultuel. J'ai envie de dire, comment ça a été le début de cet exil de Khaled Rumou?
À vrai dire, j'ai besoin de dire deux mots de ce qui provoque l'exil. Mmh. Ici en France, il y a un grand nombre d'exilés réfugiés. Mmh. C'est les conditions politiques dans lesquelles vit le pays des réfugiés. L'impossibilité d'être libre. Je me rappelle, puisque j'ai travaillé avec des réfugiés politiques ici en France, dont des professeurs, des chercheurs et des artistes. Il y en a un professeur d'université qui a manifesté au Bangladesh pour la liberté à l'époque et on l'a mis en prison. Mmh. Et donc il me dit, je regardais de la petite fenêtre de ma cellule un pré sur lequel broutait une chèvre. Et je me suis dit, cette chèvre est plus libre que moi. Oh. Et donc est née en moi la conviction que je dois quitter le pays. Donc c'est pour préciser qu'aucun...
C'est trop fort quand même, hein? C'est trop fort.
Mmh. Ça m'a marqué. Et pour dire qu'on ne quitte pas son pays de bon cœur, ce n'est pas vrai. On ne cherche pas l'argent, ni la réputation, ni une meilleure civilisation. On quitte le pays quand on ne peut plus rien faire.
Parce quand on a le mal-être, oui.
Mais l'élite est condamnée à aller en prison, à être massacrée. Mmh. Alors du coup, elle s'exile. Et comme j'ai dit, c'est les chercheurs, les professeurs, les enseignants, les artistes, etc. Mmh. Donc moi, je fais partie de ces gens-là quand j'ai quitté mon pays. J'étais pas menacé, mais je savais que je ne pourrais jamais enseigner la littérature française comme je le souhaite, parce que il y avait dans notre classe un mukhbir, un agent qui écrivait des rapports sur le professeur et les étudiants. Alors du coup, j'ai senti qu'il n'y a pas d'espoir. Voilà.
C'était en Syrie, hein, il faut rappeler.
C'était en Syrie et arrivé en France, heureusement que j'avais un désir ardent de faire des recherches, et je me disais naïvement, mais je suis toujours naïf, je vais chercher la vérité en France, en faisant de la recherche scientifique. Mmh. Et donc, c'est comme ça que je me suis intégré au pays, en fréquentant les gens du pays.
Et comment ça a été l'accueil, justement? Déjà, il faut savoir qu'un réfugié, le statut d'un réfugié, ce n'est pas le même statut qu'un émigré.
Non, je veux dire que moi...
Juridiquement.
Je me considère comme réfugié parce que je ne comptais plus rentrer chez moi. Mmh. Et donc je suis entré avec un visa d'étudiant et donc j'ai mené une vie d'étudiant, chercheur pendant des années. Mmh. Voilà.
Vous avez choisi l'exil.
Je l'ai choisi consciemment avec mon épouse qui elle aussi était soumise aux mêmes conditions. Mmh. Et on rêvait aller travailler dans un autre pays arabe, mais les portes se fermaient l'une après l'autre. Finalement, on était astreint à demander la nationalité française et à rester en France, faisant un saut qualitatif, à savoir, au lieu de servir dans un pays arabe, ici on sert l'humanité. Et en effet, on avait affaire à des gens venant de tout pays, mmh, des réfugiés dont on s'occupait.
Donc en fait, vous êtes en train de poncer ou penser dans le sens guérir, faire guérir les mots MAUX de cette humanité mutilée et mutilante à travers l'histoire, et justement l'exil, est-ce que pour vous, aujourd'hui vous êtes réconcilié avec ce mot, parce que l'exil... C'est toujours un mal-être, hein, le fait de sentir qu'on est loin du pays, ça n'enchante pas forcément les gens. Mais quand on le choisit, est-ce qu'on vit avec tous les jours, est-ce qu'on arrive à se réconcilier avec le mot?
Alors, voici là, il y a, bon, je dois aller au fond des choses, mm-hmm. Il y a un exil déjà dans le monde. Moi, j'estime que dans ce monde tel qu'il est, je me sens exilé parce que il y a malheureusement la laideur et le mensonge.
On est d'accord.
qui voisine avec d'autres valeurs mm-hmm. opposées. Mm-hmm. Et donc, je n'arrive pas à m'accommoder de cela. Néanmoins, on s'habitue. Après, il y a le pays dit d'origine. Moi, je ne dis pas la Syrie, mon pays d'origine. Je dis la Syrie, mon pays toujours et à jamais. Mm-hmm. Et la France aussi, mon pays pour toujours. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'on me classe toujours comme quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans mes interventions, conférences, je dis, quand on me présente, je suis français à 100% et syrien à 100%.
C'est magnifique, cette cohésion, finalement.
Mais il faut la travailler tous les jours. Tous les jours, et quand des amis français me disent, mais vous êtes bien intégrés, vous faites littérature française, etc., je dis, la Syrie, pour moi, c'est pas le passé, c'est le quotidien. Mmh. Je ne me réveille pas le matin en ayant oublié la Syrie. Et elle m'accompagne tout le temps, j'approche les trois quarts de siècle, et cette équation ne recevra pas de solution, voici là. Mais ça fait partie des réalités à gérer dans ce monde.
Et par rapport justement les personnes que vous avez dû rencontrer sur votre chemin, comment ça a été, comment vit les réfugiés d'avant et d'aujourd'hui l'exil?
Ben, je prends des exemples concrets comme ça, ce sera plus précis. Je me rappelle d'un artiste iranien qui était très connu dans son pays. Il n'avançait pas en français. Je leur apprenais la langue et la culture française. Alors un jour, on a fumé une cigarette ensemble. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous pensez que vous pourrez retourner en Iran? Un jour, avant votre mort, il m'a dit non. J'ai dit, et combien d'années vous comptez vivre encore? Il m'a dit 15 ans, j'ai dit, je vous donne 30. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vivre 30 ans dans ce pays sans parler sa langue? Ce sera l'enfer, ce sera la prison. Et alors quand je lui ai mis les choses devant les yeux, je vous assure, dès le lendemain, il a commencé à faire attention à la langue, à la culture, et à chercher vraiment à avoir des liens à son environnement. C'est pour dire que le problème fondamental, c'est comment trouver des substituts à ce qui nous faisait vivre dans le pays d'origine, ici en France. Et c'est un travail de tous les jours.
Quelque part, Khaled Roumou, cet exil, on peut le vivre dans nos têtes, on peut vivre dans le pays d'origine. Et oui. Être exilé, enfin, on s'exile, ça ne ressemble pas le quotidien, ça ne ressemble pas à ces gens avec qui on vit, puisque les valeurs, certaines choses ne nous ressemblent pas. Et donc, on s'exile inconsciemment dans nos têtes.
Il y a de ça, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire l'exil commence dans son propre pays ici. Pas seulement quand les choses ne vont pas. Il y a une sorte d'exil métaphysique. On le comprend pas, celui-là. Ça, c'est l'affaire des écrivains et des artistes. Après, il y a l'exil dans un pays qui ne respecte pas notre dignité. Donc, ça fait deux. On arrive dans notre pays, c'est le troisième exil. Alors, celui-là, c'est vrai que, bon... Je me réfère à la philosophie de ma mère qui était illettrée. Elle me dit, elle disait, Abni, mon fils, tu trouveras des gens bien partout. Mais que Dieu te protège d'oula de l'haram, c'est-à-dire des gens mauvais. Et donc, on arrive et on regarde autour de soi. Les gens qui acceptent le lien, qui le cultivent, ils existent en France. Les gens bons, solidaires, existent en France. Il faut aller vers ces gens-là et pas se laisser embobiner par un discours soit xénophobe, soit antiraciste fondamentalement. Et là, je dois témoigner que j'ai rencontré des gens de valeur et je rencontre encore. J'ai réussi à faire entrer 9 couples de ma famille avec leurs enfants, petits ou grands, grâce au soutien des amis français de souche, pour le préciser, qui étaient vraiment d'une efficacité incroyable. Donc, il y a du cœur en France. Il y a du cœur.
Évidemment, évidemment qu'il y a du cœur et beaucoup de cœur, beaucoup de gens qui soutiennent les réfugiés et on n'en parle pas. C'est plutôt les gens, enfin quelques, une poignée de personnes qui ne font rien pour les, pardon, pour les réfugiés. C'est ceux-là qu'on entend parler plus, comme Zemmour et compagnie.
Mais oui, justement, des gens comme ça, que ce soit au niveau de certains médias, je dis bien certains médias, ou des institutions, ils prennent les choses globalement, mais pas dans un sens où les valeurs fondamentales de la vie sont apparentes, encouragées, soutenues, mais dans un sens de calcul stratégique. La vie, elle se fait sur le terrain, au jour le jour. Mmh. Et ça, je l'ai vu, j'ai travaillé dans des banlieues, j'ai été ailleurs en France pour faire des formations aux acteurs socioculturel et politique à la diversité des cultures. Et je vous assure que je suis témoin, j'ai été témoin de travail magnifique sur le terrain.
Est-ce que les réfugiés, il y a des réfugiés qui prennent leur décision de partir du pays, un moteur, un outil pour s'épanouir et changer la donne de leur vie. D'autres, quand ils arrivent, eh bien, ils colportent avec eux leur lourd passé ou leur mot MAUX, et ça les aide pas en fait à s'épanouir ni à s'intégrer dans le pays qui les accueille. Comment on réussit son exil?
Justement, là, vous avez tout à fait raison de mettre le point sur les i. C'est vrai, ces gens-là qui sont encastrés dans leurs difficultés réussissent même à retourner les gens de bonne volonté contre eux. Mmh. Parce qu'ils sont dans une identité étriquée, qui ne respire pas bien, et il n'y a plus d'oxygène pour eux, et les gens n'aiment pas fréquenter les asphyxiés. Par contre, la personne qui se dit « D'accord, la vie est difficile, chez moi, ici, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais, moi je m'oriente vers les gens bien. » Et ma part de souffrance, ma douleur, elle n'est pas unique. Tout le monde a ses propres douleurs, ses propres souffrances. Donc il ne faudra pas que je fusille les autres parce que je souffre. Il faudrait que je trouve un moyen de porter ma présence dans ce monde et de payer la taxe comme tout le monde, j'allais dire.
Quelle est votre réflexion justement par rapport au nombre de réfugiés qui s'accroît d'une année à l'autre? Cette année, par exemple, on a deux fois de plus de réfugiés en moins de 10 ans. En 2019, 79 millions de personnes ont été déplacées de force dans le monde entier en raison de persécutions, conflits, violences, violations des droits de l'homme, etc. Et quelle réflexion portez-vous sur cette croissance de réfugiés?
J'ai une chercheuse très connue, Anna Arendt, qui a vécu en Europe et surtout aux États-Unis, professeure d'université, auteure de livres, qui analyse le phénomène colonial et impérialiste. Et qui dit que les grandes puissances, motivées toujours par des buts économiques, aux dépens des peuples de ce qu'on appelait le tiers-monde, allument des foyers de guerre pour réaliser leur but. Et elle dit, elle attire l'attention sur le fait que ces foyers de guerre se promènent de l'Asie jusqu'à l'Amérique latine, et maintenant c'est la zone arabe et musulmane. Et que s'ils veulent arranger les problèmes, ils le peuvent. Elle prend comme exemple les droits des Palestiniens. Elle est en passant d'origine juive, mais c'est en son honneur que de ne pas s'aligner sur la position sioniste. ils veulent pas résoudre le problème. Ils l'entretiennent pour affaiblir tous les joueurs et réaliser leur but dans la région. Et tous les réfugiés, ce nombre phénoménal que vous citez, mais c'est le résultat des guerres, des guerres fratricides. Opposer l'Iran à l'Irak, l'Iran aux pays du Golfe, enfin le Liban à la Syrie, la Libye actuellement, tout cela, c'est les intérêts.
Vous qui êtes homme de terrain, donc vous êtes très engagé depuis plusieurs années dans le dialogue des cultures et des religions justement. Est-ce que vous pensez que ce que n'a pas réussi à faire les politiques pour stabiliser les régions du monde pourrait être, pourquoi pas, les années à venir, être l'affaire des peuples? Les peuples peuvent changer la donne parce que...
Tout à fait, à condition que on contrecarre pas leur révolution. Bon, il y a eu un premier round dans le monde arabe, la contre-révolution l'a emporté, mais je suis sûr et certain que le deuxième round, les peuples vont le gagner. Et si des régimes démocratiques s'installent dans l'autre partie, de l'autre côté de la Méditerranée, il y aura un équilibre de force avec l'Occident, avec son passif colonial et impérialiste, et l'Occident doit négocier avec les peuples de ces régions sur un pied d'égalité, comme on fait avec le Japon, avec l'Allemagne, avec la Suède, avec les États-Unis. Donc il faudra de la force, et cette force viendra des peuples et de leur réussite, de leur succès, à établir des régimes vraiment démocratiques, qui garantissent la dignité et la liberté de leurs citoyens.
Beaucoup de nos auditeurs et auditrices, pour finir, Khaled Roumou, pensent, même quelques invités que j'ai eu l'honneur de les accueillir ici au sein de la radio, de l'Afrique, des Africains, qui m'ont dit que il y a une grande conscience chez les jeunes Africains, les Maghrébins aussi, dire que voilà, cette Afrique, elle nous appartient, elle est très riche. Elle est très riche par nous, les jeunes. Elle est très riche par tout ce qu'elle a dans le sous-sol. On va pas la quitter, on va la repenser et la refonder. Il y a une prise de conscience chez les jeunes. Est-ce que vous avez senti cela au cours de vos voyages?
Tout à fait, tout à fait. Il y a même une appropriation de la culture ancestrale et dite traditionnelle avec une transformation positive dans le domaine religieux, politique et social. Ça, je le constate ici dans l'immigration, je l'ai constaté dans d'autres pays où j'étais. Et le tout, c'est que les peuples ont compris que les grandes puissances ne comprennent que l'intérêt et le rapport de force et qu'on ne peut plus leur faire confiance. Le premier grand mensonge que la France et l'Angleterre ont joué pour le monde arabe oriental, c'est les accords de Sykes-Picot. Après, on continuait à être les alliés, soit de la Russie, soit des États-Unis, mais ils nous jouaient toujours de mauvais tours. Maintenant, cette jeunesse dont vous parlez est vraiment consciente, et elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Et ça, c'est formidable. En plus, avec une valorisation de la culture ancestrale et traditionnelle, tout en la purifiant et l'inscrivant dans notre siècle. Évidemment, quand je parle du monde arabe, je parle de l'Afrique aussi et de certains pays d'Amérique latine. Quand, après 5 siècles de mort imposée par les conquistadors en Amérique latine, on a vu émerger des chefs d'État issus des gens originaires du pays, ce qu'on appelle les Amérindiens abusivement, et moi, j'ai cru à un miracle. Un demi-millénaire, et cette culture qu'on a tuée dans l'œuf, elle émerge. Donc, j'ai de l'espoir pour l'autre partie de la planète.
Pour le grand optimiste que vous êtes, on était vraiment ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui, dans un jour aussi particulier qui touche beaucoup de nos amis de par le monde, pas que dans le monde arabe qui sont touchés par la guerre, mais partout de là où il y a la persécution. En tout cas, une grande pensée à tous ceux et celles qui souffrent, qui attendent vraiment de vivre en toute, vivre leur honneur. honneur, récupérer leur honneur qui a été bafoué par la force des choses. Je rappelle, Khaled Romouk, que vous êtes poète et chercheur de formation littéraire. Vous êtes engagé dans le dialogue des cultures et des religions depuis le début des années 70, date de votre arrivée en France, n'est-ce pas?
Merci beaucoup, Wassila, de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous, avec les auditeurs, les auditrices, ces pensées issues du réel. Je ne suis pas optimiste, Wassila, ni pessimiste. Je regarde, je me dis le mal est le mal, le bien est le bien, et il faudra toujours essayer de s'accrocher à ce qu'on croit être le bien.
C'est déjà bien. Une bonne chose pour aller dans le bon sens de l'optimisme, cher voilà. Khaled, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, vous êtes l'auteur de L'Enfant Voyageur chez les éditions Éric Bonnier. On aura le plaisir aussi de vous recevoir prochainement pour parler de votre nouveau livre et puis de plein de choses, en tout cas. Merci
enfin,
beaucoup.
Ce roman pose très bien le problème de l'exil, mais dans ses fondements.
Absolument. On le recommande fortement pour nos auditeurs. L'Enfant Voyageur de Khaled Romouk chez les éditions Éric Bonnier, édition 2017. Et puis, je vous dis à très bientôt.
À très bientôt, j'espère. Et bonne continuation. Merci pour le travail que vous faites.
Merci infiniment. À très bientôt, Khaled Romouk.
Au revoir.
Au revoir.